lorsque en 1959, Wolfram von Soden était appelé à la chaire d'assyrologie de Münster, il consacrait sa leçon inaugurale à la question de la justice de Dieu et la problématique de Job. Wolfram von Soden pose dans sa leçon la question pourquoi une figure comme celle de Job n'existe pas en Mésopotamie, donc une figure qui se pose la question si Dieu est juste. Soden donne plusieurs réponses. Selon lui, la religiosité mésopotamienne était avant tout basée sur le respect des règles culturelles. Les dieux de la Mésopotamie seraient plus intéressés par le respect de celle-ci que par le comportement moral d'une personne. En prolongement de cette idée, il note que le tabou est une notion importante en Mésopotamie. L'homme peut à tout moment enfreindre un tabou et être du coup fautif. Une autre explication de von Soden était ce qu'il appelle le clanisme, qui serait, je cite, un élément constituant des religions primitives selon lequel l'homme individuel ne compte pas, mais c'est son clan, sa famille, dont il est parti solidaire et pour laquelle il subira éventuellement la punition d'une quelconque faute. Dans sa contribution, Wolfram von Soden réfute notamment l'hypothèse du livre très populaire de Samuel Noah Kramer, « L'histoire commence à Sumer », qui avait écrit qu'il aurait trouvé l'origine du récit de Job dans un texte sumérien. Ce que von Soden récuse, dans ce texte, la question de la justice de Dieu n'était pas posée et donc pour von Soden, cela exclut cette antériorité. De tout cela ressortait une idée de la sagesse, selon von Soden, qui est celle propre à la Mésopotamie. Se poser la question si Dieu est juste n'est pas utile. Sage est celui qui recherche l'origine de sa punition, celui qui prie et qui éventuellement peut espérer obtenir pardon. 20 ans après von Soden, un autre assyriologue, Jean Bottero, s'est également penché sur le texte du juste souffrant avec les questions d'ordre philosophique qu'il pose. Le texte de l'article de Jean Bottero donne le ton, le problème du mal. Jean Bottero traite la question comment en Mésopotamie on aurait posé la question de l'existence du mal. Et dans sa préambule, Jean Bottero explique que le mal en Mésopotamie serait seulement un mal de souffrance, malheur, maladie, déchéance. Il n'y aura pas l'idée du mal en tant que mal moral, à savoir celui de la mauvaise action. Selon lui, les habitants de la Mésopotamie ne pouvaient pas rendre les dieux responsables du malheur, non parce qu'ils sont bons, mais parce qu'ils seraient préoccupés à assurer la bonne marche du monde. Pour le malheur, il y avait d'autres responsables, les démons, et c'est contre leur action qu'on a développé des procédures magiques, etc. Mais, puisque les dieux gouvernaient tant le monde qu'ils dominaient les démons, on cherche donc à obtenir d'eux la protection contre l'action de ces derniers. Jean Bottero suppose que d'abord on aurait imaginé l'action des démons comme sans raison apparente, comme des bêtes féroces qui attaquent les gens. Ensuite, selon Bottero encore, avec l'arrivée de populations abcémites, voire amorites, vers la fin du troisième millénaire, on aurait commencé à supposer que chaque punition divine avait une raison réelle, qu'on devait chercher la faute qui était à l'origine du mal. Selon cette conception, chaque malheur donc était dû à une faute, mais chaque fautif n'était pas nécessairement puni. On rappelle ici une caractéristique de la langue akkadienne et sumérienne qui utilise le même mot pour faute et punition. Plus récemment, un théologien, actuellement professeur à Göttingen, Hermann Spiekermann, est revenu à la question du récit du juste souffrant en argumentant que le texte devait être lu pour lui-même et non pour ceux qui le lisent ou le distinguent du livre de Job. Il analyse l'œuvre, sa structure, et on conclut par la composition formelle que le chant du juste souffrant contient un message potentiellement dangereux que l'auteur du texte aurait volontairement caché dans un long passage au milieu du texte, dans l'espoir de ne pas s'exposer à la colère divine lorsqu'il le révèle. cette sagesse et que les dieux auraient décidé volontairement de ne pas permettre à l'homme de comprendre leur nature ni ce qui les fâche. Les arguments avancés par Spiekermann sont convaincants et on y reviendra quelque temps plus tard. Je propose que nous essayions de voir quelles souffrances révélaient aux individus en Mésopotamie la défaveur divine, avant de tourner notre attention à l'œuvre du juste souffrant que j'ai déjà mentionné initialement, le Lutlul Bel Nemeki. Nous avons déjà vu hier de quels indicateurs la Mésopotamie disposait pour connaître la défaveur divine, défaite, perte humaine, etc. Or, un texte magico-médical nous donne une énumération assez complète des symptômes à prendre au sérieux pour détecter la défaveur divine. Regardons d'abord ce texte relevant de la médecine et édité par Franz Köcher dans Babylonische und Assyrische Medizin, BAM 234. Je cite, « Si un homme rencontre des adversités, mais ne sait pas comment il les a rencontrées, s'il subit sans cesse des pertes, perte de grains et d'argent, perte d'esclaves, hommes ou femmes, bœufs, chevaux ou petits bétails, chiens, cochons ou en personnel qui ne cesse de mourir, s'il a sans cesse le cœur brisé, s'il donne des ordres sans obtenir obéissance, s'il appelle sans recevoir une réponse, etc. Si dans son lit il ne cesse d'avoir des frayeurs, s'il subit des paralysies, si son cœur est en colère contre le Dieu et le roi, jusqu'à en faire une crise. Si ses membres sont baissés, c'est-à-dire inactifs, s'il a des accès de crainte, s'il ne dort ni de jour ni de nuit, s'il fait régulièrement des cauchemars, s'il devient régulièrement paralysé, si pain et bière ne l'intéressent plus, s'il dit une parole et l'oublie aussitôt, cet homme subit la colère de son Dieu et de sa déesse. Son Dieu ou sa déesse ont de l'hostilité contre lui. Si cet homme est malade par l'emprise du serment, par la main du Dieu, si la faute du père ou de la mère, du frère ou de la sœur, de la famille de sang ou de la famille par alliance l'aura saisi, alors pour les guérir, afin que ces assombrissements ne s'emparent pas de lui, suit un rituel magique. Ce rituel magique est, après la description des symptômes et l'analyse clinique de l'affection, comporte une fabrication d'une figurine sur laquelle sera transféré le mal, à l'instar de ce que Lionel Marty nous a montré hier dans son exposé du comportement du roi de Choubria, qui a fait de même. Selon BAM, cette figurine est enterrée à la fin du rituel, après le don d'offrande et la récitation d'incantations pour éloigner le mal de la personne souffrante et la transfusion de donc le malheur sur cette personne, sur cette figurine. Le texte BAM énumère comme premier symptôme bien visible les pertes humaines et les pertes matérielles répétées. On rappelle que c'est aussi de cette manière que dans les livres de Job commencent les épreuves de cet homme. Or, dans les textes du quotidien montrent, comme vous avez pu voir hier aussi dans la communication de Dominique Charpin, que ces accumulations de morts étaient parmi les premiers symptômes pour les gens qui faisaient qu'ils remarquaient qu'ils étaient sous le coup d'une défaveur divine. Je ne cite qu'un exemple du quotidien, une lettre de Marie écrite par un haut fonctionnaire de Zimrélim au secrétaire de celui-ci. Je cite. Lorsque mon Seigneur m'a envoyé chez les nomades, j'avais dû laisser à Katunan la farine et les moutons destinés au sacrifice pour le dieu Amum de Tehran, un dieu infernal. Cependant, ce sacrifice représentait pour moi un souci constant. Or, lors de mon départ de Marie, un lion a tué un serviteur et un serviteur à moi en chemin. Une fois à Sagaratum, deux servantes étaient mortes et toute ma maison en émoi. Après enquête, j'apprends, c'est Amum de Tehran à cause de son sacrifice. C'est à cause des craintes que j'avais que je ne suis pas allée chez mon Seigneur, mais à Katunan explique à mon Seigneur qu'il faut que j'aille offrir ce sacrifice et prier pour mon Seigneur. Le gouverneur, auteur de cette lettre, explique pourquoi il préfère ne pas obéir à un ordre du roi, mais s'occuper d'un devoir religieux d'abord. Il écrit cette lettre au secrétaire du roi, mais parallèlement, une lettre plus succincte demande l'indulgence royale et est envoyée au roi en personne. Dans ce cas précis, la colère divine causée, et cela a été confirmé par les enquêtes divinatoires, par un manquement cultuel, dont la punition était forte. La colère s'était manifestée par des morts à répétition parmi le personnel de la maisonnée, du gouverneur, et ces morts avaient mis en émoi toute la maisonnée, tellement leur accumulation était inquiétante. Le gouverneur, auteur de cette lettre, n'avait pas commis un grand manquement à nos yeux de modernes. Il est probable que tous les gens en Mésopotamie de cette époque commettaient durant leur vie des fautes de ce type. La réaction divine supposée était forte. Mais fréquemment, et comme c'était le cas dans ce texte, les causes de la punition divine étaient claires, vite détectées, vite réglées. Mais il arrivait que le souffrant ignore sa faute et ne puisse en découvrir les origines, ce qui se prolongeait donc selon la conviction de leurs auteurs. Cet état de fait a provoqué une littérature sapientiale assez abondante, qui date du deuxième millénaire avant le Christ, et dont le représentant principal est, en ce qui concerne la Mésopotamie, est un des textes les plus beaux et les plus élaborés de la littérature akkadienne, un poème appelé d'après son incipit akkadien, Lutlul Bel Nemeki, ce qui veut dire « Je veux louer le Seigneur de sagesse ». Celui qui déclare vouloir louer le Seigneur de sagesse, en l'occurrence le Dieu suprême de Babylone, Marduk, est un certain Shubshi Meshre Shakan, un personnage historique ayant vécu à l'époque du roi kassite Nazimarutash du début du XIIIe siècle et se trouvant en haut de l'administration royale, peut-être en tant que gouverneur. La question de savoir si ce Shubshi Meshre Shakan est non seulement le protagoniste, mais aussi l'auteur réel du récit n'est pas important pour notre propos aujourd'hui. Ce qui est sûr est que la rédaction de ce texte n'est pas très éloignée dans le temps de la vie des protagonistes, car l'histoire de cet homme fameux doit avoir marqué les esprits, mais se serait estompée avec le temps. Le récit, le poème du Lutlul, est une composition homogène de 4 tablettes à 120 lignes chacune. Et puisqu'elle a fait partie du curriculum des scribes, elle nous est parvenue en nombreux exemplaires. Il s'agit d'un texte extrêmement élaboré, comme le montre déjà sa répartition harmonieuse sur 4 tablettes égaux en longueur, un fait plutôt exceptionnel dans la littérature mésopotamienne. Le vocabulaire très choisi de ce texte était tellement difficile qu'il avait suscité des commentaires anciens. Les élèves qui copiaient l'œuvre avaient besoin d'aide pour comprendre pleinement ce texte. L'état de transmission de ce texte est satisfaisant pour une moitié, mais se gâte pour la deuxième. Et malheureusement, la dernière tablette est encore dans un état fragmentaire de reconstitution. Je propose que nous jetons un rapide coup d'œil au texte pour voir l'indication claire de la colère divine, les symptômes que le souffrant Shubshi Meshre Shakan détecte chez lui et que nous mettrons en mémoire avec le texte médical que nous venons de voir, l'interrogation concernant les causes du mal subi, et le questionnement de l'action divine. Après cela, nous jetterons un beaucoup trop rapide coup d'œil à la guérison qui est annoncée par la tablette 3 et qui est relatée par la tablette 4, malheureusement la moins bien conservée. Lutlul commence avec un hymne de 40 vers dans lequel le caractère ambigu et suprême du Dieu est chanté. C'est dans cette partie que le narrateur nous introduit dans le caractère de Dieu et dont la colère est effroyable, mais qui, par ailleurs, est d'une grande tendresse. Le texte commence par les mots qui annoncent le ton du reste. « Je veux louer le Seigneur de la sagesse, le Dieu qui réfléchit, qui est en colère pendant la nuit, calmé pendant le jour. » Et il donne ensuite une série d'images opposées qui annoncent l'action du Dieu sur le souffrant. Après ces 40 vers, l'action commence immédiatement dans le monde divin. L'homme, subissant l'hostilité de Dieu suprême, est abandonné par les divinités de tout rang et livré seul au malheur. Parmi les symptômes les plus remarquables pour constater la défaveur divine, comme nous avons vu tout à l'heure, dans le texte magico-médical, figurent les pertes matérielles et pertes humaines. Et c'est avec ça aussi que les épreuves de Job commencent. Et dans le livre de Shubshi Meshre, dans le livre du Lutlul, Shubshi Meshre Shakan ne fait qu'une allusion plutôt pudique et seulement vers la fin de la tablette à ces événements matériels. Le narrateur relate rapidement comment il perd son domaine et son personnel situé dans une ville provinciale, que ses champs ne sont plus irrigués ni cultivés et que les ouvriers ne chantent plus en accomplissant les moissons. Plus encore que les pertes matérielles, l'auteur du texte semble souffrir de la perte de prérogatives cultuelles auxquelles Shubshi Meshre Shakan dédie un double vers. On octroya à un autre mes prérogatives cultuelles, on installa quelqu'un d'autre dans mon rôle cultuel. En fait, les pertes matérielles sont précédées dans le récit du Lutlul de pertes bien pires, pertes du statut social, du soutien du roi, agression des collègues, et tout cela devait entraîner dans l'esprit du lecteur ou orateur les pertes matérielles résumées par les passages ci-dessus. L'isolation sociale du souffrant est un des thèmes majeurs de l'œuvre. Qui n'est pas un fait qui n'est pas du tout décrit dans le texte magico-médical de BAM. Or, l'isolation sociale de celui qui était censé être sous le coup de la colère divine est mentionnée par d'autres textes magiques, notamment dans la série Shorpo. Dans Lutlul, cela se présente de plusieurs manières et je ne vous montre qu'un passage dit depuis le début des malheurs relatés. Et on va voir que, vous ne voyez pas, mais dans le texte, on voit que cette mise au ban s'aggrave au cours du récit. L'auteur chante « Venant d'une vaste famille, je suis devenu solitaire. Lorsque je marche dans la rue, on me montre du doigt. Lorsque j'entre vers le palais, les yeux se plissent de manière hostile. Ma ville me regarde comme un ennemi. » On dirait un pays hostile, agressif. Mon frère m'est devenu un étranger, et un peu plus loin, ma famille m'a considéré comme n'étant pas de leur chair. Cette mise au ban de la société, qui est décrite de nombreuses manières et à plusieurs reprises dans les textes, s'accompagne d'une perte d'autorité, qui est parmi les signes cliniques de la défaveur divine selon le texte médical qu'on a vu tout à l'heure, magico-médical qu'on a vu tout à l'heure. Elle est décrite dans le Lutlul uniquement dans ce passage révélant le changement du comportement de la domesticité de Shubshi Meshre Shakan. D'autres signes cliniques révèlent la défaveur divine comme l'insomnie, que l'auteur de Lutlul mentionne avec ses cauchemars. Avant de vouer un long passage à son manque d'appétit et les ravages que cela fit subir à son corps, il dit, entre autres, « Le grain que je l'avale comme si c'était une plante dégoûtante, la bière, nourriture des hommes, me devint ensuite déplaisante. En plus, l'infection se mit à se prolonger. En l'absence de nourriture, mes traits se mirent à changer. » Tout cela entraîne le corps du souffrant dans un état de déperdition, dont certains symptômes sont décrits par BAM, comme l'accès de peur, des raidissements de membres ou le manque de concentration. Un passage est très développé dans le récit, et toutes sortes de mots tombent sur le souffrant comme des démons. Et je ne cite qu'un tout petit extrait de ce long passage où l'auteur raconte. Ensuite, une paralysie s'empara de tout mon corps. Le trouble de concentration tomba sur moi. La raideur s'empara de mes côtes. L'insensibilité tomba sur mes genoux. Mes deux pieds ont oublié comment bouger. Et on comprend bien qu'après tous ces événements, le souffrant est dans un état de dépression, d'incapacité de s'en sortir. Et l'auteur de Loutloul décrit cela par les mots « J'ai gardé le lit comme enfermé. En sortir était souffrance. Ma maison devint une prison. Mon corps était menotté, abaissé mes bras. Mes deux pieds étaient dépéris par mes propres entraves. » Qu'est-ce qui pouvait causer tant de souffrance? Cette question, les anciens se sont autant posés que nos médecins et chercheurs actuels qui cherchent les mécanismes qui entrent, par exemple, dans la dépression. Mais à l'époque, c'était en cherchant la raison de la punition, la faute culturelle à l'origine de la défaveur. Dans Loutloul, nous voyons à plusieurs reprises que cette interrogation est laissée aux soins des spécialistes de l'interrogation divine, aux devins et d'autres spécialistes des techniques de la divination. Le texte revient souvent sur la consultation de ces spécialistes et montre la fréquence des consultations. Or, selon Loutloul, tous ces spécialistes n'étaient pas capables de trouver une explication de la punition. Par ailleurs, dans notre texte, le narrateur se livre lui-même à une longue introspection et fait une confession négative. Or, l'introspection, elle non plus, ne donne rien et l'auteur du texte se décrit comme injuste et se pose la question « Que je sache comment tout cela a été en accord avec le Dieu. Ce qu'on estime bon peut être un péché pour le Dieu. Ce qui est très mauvais selon son cœur peut plaire à son Dieu. Qui apprend l'état d'esprit de Dieu au milieu des cieux? Ou est-ce que les humains, ignorants, ont pu apprendre la conduite de Dieu? J'ai réfléchi à tout cela sans pouvoir apprendre leur nature. » Le narrateur commence à se poser la question si une raison rationnelle peut être donnée à toute cette souffrance, et selon Hermann Spickermann, que j'ai cité au début, il commence à soupçonner que les dieux, en l'occurrence Marduk, n'en font que de leur tête. Le poème Loutloul contiendrait une accusation contre les dieux qui ne veulent pas que les humains comprennent ni sachent comment éviter de se mettre en danger. Du fait, la justice du dieu ne se pose pas comme question. L'homme souffrant continue sa descente. Or, Loutloul ne laisse pas ses lecteurs dans la dépression, mais les relève. Dans la seconde moitié du texte commence la remontée du personnage clé qui guérit de toutes les souffrances de manière aussi incompréhensible qu'il en avait souffert. Et à aucun moment, ni explication de l'action divine, ni repentir divin n'apparaissent. Le texte montre ensuite qu'enfin purifié, le souffrant peut rendre à nouveau visite au temple de Marduk et faire ses dévotions aux différentes portes du temple avant d'entrer. Et il mentionne à la fin de son retour à son poste, avant de conclure par une glorification de Marduk et la profession de son enseignement suite à cette expérience, dont le résultat est le texte lui-même, un enseignement d'espérance, une clémence divine et une acceptation de son sort. Le texte de Loutloul est le plus fameux parmi toute une série de récits de justes souffrants, et dont Yoram Cohen nous présentera un autre exemplaire dans la conférence suivante. Mais ce qui distingue l'Utlul des autres est son élaboration, sa construction très réfléchie et harmonieuse qui oppose l'œuvre même au désordre décrit par l'action divine. Je vous remercie de votre attention.